Sur Fréquence 7, comme chaque premier mercredi de mois, qu'il soit 12h30 ou 17h30, on se retrouve pour l'émission Clair d'Étoile. Nouvelle saison pour Claire d'Étoile, émission de l'association Claire d'Étoile et Brane Jardin qui nous emmène la tête dans les étoiles, c'est le cas de le dire. Et c'est avec Marilyn Bardou que l'on va débuter cette saison. Marilyn, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe dans le ciel pour ce mois d'octobre. Alors ce qu'on peut voir à l'œil nu ou avec des jumelles éventuellement. Et puis on va faire un petit focus autour de Jupiter. Je crois que tu veux lui dire au revoir, mais nous en parlerons tout à l'heure. La conclusion de cette émission, ce sera de l'actualité, parce que Claire d'Étoile et Brane Jardin a une actualité pour vous le samedi 12 octobre. Voilà pour le sommaire. Passons tout de suite à l'éphéméride. Que va-t-on voir dans le ciel d'octobre ?
Alors, tout de suite, en ce début octobre, la Lune refait son apparition dans le ciel du soir après la nouvelle Lune du 28 septembre. Donc, dès ce soir 2 octobre, on pourra voir au-dessus de l'horizon sud-ouest un fin croissant lunaire grossir au fil des jours jusqu'au premier quartier du 5 octobre. Et les croissants de Lune offrent toujours de beaux et touchants spectacles. D'une part, ils décorent toujours très joliment les paysages crépusculaires. D'autre part, ils permettent de voir la délicate lumière cendrée. J'y reviendrai. Et enfin, en se déplaçant autour de la Terre, la Lune peut aider à repérer les autres planètes du système solaire. La lumière cendrée d'abord. Ce qu'on appelle lumière cendrée n'est visible qu'au début ou en fin de lunaison, au moment des croissants de Lune. Donc, petite explication, le croissant de Lune est la partie de notre satellite éclairée directement par le Soleil. Et la lumière cendrée est l'autre partie de la Lune qui ne reçoit pas la lumière directe du Soleil, mais est éclairée faiblement par un clair de terre. En fait, nous distinguons la portion du globe lunaire plongée dans la nuit grâce à la lumière solaire réfléchie par la Terre. Mmh. Et c'est, on voit, on devine tout le globe lunaire délicatement gris, dont ce nom de lumière cendrée.
D'accord. Rien à voir avec la lumière rouge que l'on voit par hasard, parfois, mais là c'est plutôt quand la Lune est pleine.
Oui, et puis c'est tout, souvent ces lueurs rouges sont dues à notre atmosphère.
Notre atmosphère, tout à fait.
Demain, le 3 octobre, dès après le coucher du soleil, un gros croissant de Lune surplombera l'horizon sud-ouest. On pourra encore voir la lumière cendrée et dans la demi-heure suivante, le ciel sera déjà assez sombre pour distinguer nettement un point lumineux juste à gauche de la Lune, c'est la planète Jupiter, qu'on voit très bien à l'œil nu. Puis, c'est à proximité de la planète Saturne que se trouvera la Lune en premier quartier au soir du 5 octobre. La proximité des deux astres n'est bien sûr qu'apparente. Elle n'est due qu'à notre point de vue de terrien. Puisque la Lune se trouvera alors à environ 391 000 km, alors que Saturne est à près de 1,5 milliard de km, donc très loin derrière. Mais vu de la Terre...
Ça fait de la route.
Entre les 6 et 19 octobre, les nuits seront illuminées par une Lune imposante. Les phases gibbeuses se succéderont avant la pleine Lune du 13 octobre. Puis notre satellite apparaîtra de plus en plus tard dans la nuit et sera en dernier quartier le 21 octobre. Et là, on pourra retrouver des nuits un peu noires pour en profiter. Et là, il faudra regarder le matin puisque les croissants lunaires du matin se succéderont jusqu'à la nouvelle lune du 28 octobre. Ils offriront à nouveau l'occasion de percevoir la lumière cendrée. Et donc ces nuits de plus en plus longues, en automne, permettent de voir le ciel étoilé du petit matin. Le soleil n'apparaissant qu'après 8 heures, à partir de mi-octobre, on profite encore de très beaux spectacles en se levant un peu avant 7 heures. Mmh. C'est pas les 4 heures du matin dans plein été.
Ouais.
Le 17 octobre, la lune gibbeuse, c'est pas tout à fait ronde, hein, c'est entre la pleine lune et le quartier. La lune gibbeuse formera un triangle avec l'amas de jeunes étoiles des Pléiades et la belle Aldébaran, étoile principale de la constellation du Taureau, brillant d'une belle couleur orangée. Les Pléiades seront au-dessus de la lune et Aldébaran à sa gauche. Sous ce trio formé par la lune, Aldébaran et les Pléiades, on pourra admirer la magnifique constellation d'Orion et le puissant éclat de Sirius, l'étoile la plus brillante de tout notre ciel. Et c'est donc une partie du ciel d'hiver qu'on découvrira de mieux en mieux au fil des semaines. Ensuite, en suivant la lune décroissante de matin en matin, nous pourrons deviner le timide retour de la planète Mars dans le ciel de l'aube. Le 26 octobre, un horizon est-sud-est très dégagé permettra d'apercevoir un très fin croissant lunaire surplombant un astre blanc, c'est l'étoile Porima de la Vierge, et juste au-dessous, le discret point orangé de la planète rouge, qui deviendra de plus en plus visible au fil des prochains mois, jusqu'à être éclatante dans le ciel d'octobre 2020.
Il faut encore c'est comme tout à l'heure, il faut faire de la route.
Voilà. Il faut qu'elle en fasse de la route pour revenir à notre proximité. Et dès le lendemain de la nouvelle lune du 28 octobre, une demi-heure après le coucher du soleil, horizon ouest-sud-ouest, on pourra tenter de deviner dans les rougeoiements du crépuscule un croissant extrêmement fin au-dessus du point éclatant de la planète Vénus.
Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que fin octobre, on change d'heure aussi. On changera le dimanche 27.
Exactement, dernier week-end d'octobre, on change d'heure, on repasse
recule,
en heure d'hiver, voilà. On recule d'une heure. Voilà.
Donc, et on bouge encore après, on ne sait plus.
On ne sait plus, on attend.
On attend les décisions des grands sages.
Oui.
J'ai dit sage.
Et voilà, je terminerai ces éphémérides toujours avec la Lune qui continue imperturbablement sa course autour de la Terre et elle repassera à proximité de Jupiter le 31 octobre. Le croissant lunaire se trouvera juste à gauche de la planète. Donc c'est à nouveau un repère pour retrouver Jupiter. Attention, encore une fois, la proximité est toute relative entre les deux astres puisque plus de 881 millions de kilomètres Les sépare.
Bah tiens, Jupiter, si on restait avec elle, si elle est si loin, mais je crois que c'est presque la fin, c'est les derniers moments où on va pouvoir apprécier cette planète. D'ailleurs, on en avait déjà un peu parlé au printemps dernier, non ?
Et oui, mais il y a tellement de choses à dire sur la planète Jupiter que j'ai décidé de refaire un focus sur cette géante pour lui dire au revoir, puisque octobre et novembre sont les dernières périodes de cette année pour la voir à l'œil nu. Donc ce focus complète bien celui du 1er mai dernier, donc où je décrivais la planète. Et d'ailleurs, bon, si on veut se remettre les choses en mémoire, on peut réécouter cette rubrique dans la partie média sur le site de clairdetoiles-brainjardin.info. Voilà. Donc, rapidement, pour se rappeler, Jupiter est la plus grande planète du système solaire, géante gazeuse d'un diamètre de 11 fois celui de notre Terre, où règnent des conditions assez extrêmes, assez est un euphémisme. Donc, il y a des vents de 360 à 600 km/h, bien que sur Terre, maintenant, on a des vents à plus de 300 km/h, ouais, c'est effrayant.
Clair, malheureusement.
Voilà. Donc, ils peuvent atteindre quand même 600 km/h sur Jupiter. La température du haut des nuages est à moins 108 degrés, alors que quelques 70 000 km plus bas, elle est à plusieurs dizaines de milliers de degrés, cette température. Donc, c'est extrême.
On n'y est pas encore.
Voilà.
Sur la Terre.
Alors, sur Terre, par exemple, au niveau de la mer, la pression atmosphérique est en moyenne d'un peu plus de 1 bar. C'est la mesure... Voilà, de pression atmosphérique. Sur Jupiter, elle est à 12 bars déjà.
C'est-à-dire que ça nous écrase alors.
Ah, ça nous écrase pas encore, mais ça c'est juste dans les couches supérieures de l'atmosphère. 1000 km plus bas que les couches supérieures de l'atmosphère, la pression atmosphérique atteint 5000 bars. Là, on est crabouillé. Au-dessous, la pression augmente encore. L'hydrogène, qui est le principal constituant de la planète, passerait progressivement de l'état gazeux à l'état liquide, carrément. Donc la composition et la dynamique de la planète génèrent un gigantesque champ magnétique. Et non seulement elle a un gigantesque champ magnétique, mais grosse comme elle a une attraction gravitationnelle extrêmement forte. Elle attire donc un grand nombre de satellites. Les quatre principaux satellites, qui s'appellent Io, Europe, Ganymède et Callisto, sont surnommés satellites galiléens. En effet, ils ont été découverts en 1610 par Galilée. Et d'ailleurs, leur observation a été l'un de ces quatre arguments en faveur du système héliocentrique. Donc, c'était bien les planètes qui tournaient autour du Soleil et non tout qui tournait autour de notre planète. L'appellation officielle de ces quatre satellites, Io, Europe, Ganymède et Callisto, provient, comme pour tous les objets gravitant autour de Jupiter, de noms d'amants ou descendants du dieu romain.
D'accord.
Voilà. Ah, Jupiter, Zeus en grec, était un grand séducteur, j'ai du mal à le dire, mais oui, grand, en tout cas. Et donc, il a séduit, voire même plus grave, beaucoup de divinités, demi-divinités, et tous les satellites qui tournent autour de Jupiter, voilà, on porte ces noms-là. Donc, jusqu'en 1975, on connaissait 14 satellites à Jupiter, j'allais dire seulement. Tous détectés avec des instruments terrestres, oui. Des lunettes, des télescopes, etc. En 1979, les sondes Voyager 1 et Voyager 2 en découvriront 3 de plus. Et alors, après, de 1999 à 2010, les observations firent exploser le nombre total en le portant à 79. Donc, Jupiter, à ce jour, reconnu officiellement à 79 satellites. Et donc, il a bien fallu la puissance des meilleurs détecteurs terrestres, car à l'exception des satellites galiléens, Io, Europe, Ganymède et Callisto, qui ont des tailles comparables à peu près à celles de la Lune, tous les autres satellites de Jupiter sont beaucoup plus petits. C'est-à-dire qu'ils font entre 1 km et 260 km. Voilà, donc ce sont des tout petits cailloux ou gros cailloux, mais voilà. Et à ces 79 satellites s'ajoute un système d'anneaux si fins et si diffus qu'ils sont difficilement détectables, à la différence de ceux de Saturne qui sont facilement observés avec de petits télescopes. L'ensemble des satellites joviens se situe entre 128 000 km de la planète et plus de 29 millions de kilomètres pour le plus éloigné. Et donc leur temps de révolution, le temps qu'ils mettent à faire le tour de Jupiter, varie entre 7 heures pour les plus rapides, c'est vraiment extrêmement rapide pour la grosse planète que c'est, de 7 heures à plus de 2 ans pour le plus éloigné pour faire le tour de Jupiter. Donc
c'est
visible.
C'est en terrestre.
Je parle en année terrestre, ah oui, bien sûr.
Voilà. On ne connaît que celle-ci d'ailleurs.
Au passage, Jupiter, pour faire sa révolution autour du Soleil, met 12 ans quand même.
Oui.
Elle est à une certaine distance du Soleil. Donc notre planète Terre met 1 an, donc 12 mois à faire le tour du Soleil. Et Jupiter, à la distance où elle est, 800 et quelques millions de kilomètres, met 12 ans. Et donc cette planète Jupiter, très lumineuse quand on la voit, c'est la plus grosse planète du système solaire, elle réfléchit beaucoup de lumière du Soleil, a été vue, observée, étudiée depuis les temps les plus anciens, depuis toujours, et je ne suis pas sûre d'avoir le temps de le développer, mais elle a permis de nombreuses découvertes scientifiques, entre la vitesse de la lumière, les satellites, etc., mais ce sera peut-être pour un troisième épisode.
Une vraie série sur Fréquence 7.
Tout à fait.
C'est le moment des séries. Allez, on va conclure avec une actualité quand même de l'association. Vous donnez rendez-vous samedi 12 octobre à toutes celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur pas une comète, j'allais dire, c'est une bêtise. Ajuvinas, c'est une
météorite.
Il s'est bien écrasé à Ajuvinas.
Voilà.
Hein, pas Asperger comme on peut l'entendre sur certaines radios.
Oui, décalé.
Décalé. Non, Ajuvinas. Alors, samedi 12 octobre.
Voilà. Alors, les comètes sont des astres dans l'espace, très lointains du Soleil. Les astéroïdes tournent pour la plupart autour du Soleil entre Mars et Jupiter. Des morceaux d'astéroïdes et des morceaux de comètes peuvent se détacher par des impacts là-haut, dans l'espace, il y a beaucoup d'impacts, beaucoup de collisions, et donc des morceaux qui peuvent se détacher et quelques millions d'années plus tard croiser la route de la Terre. Et la Terre attire ces morceaux de comètes ou d'astéroïdes. Quand ces petits cailloux ou gros cailloux traversent l'atmosphère de la Terre, c'est extrêmement violent, ça provoque un phénomène lumineux qu'on appelle étoile filante ou météore en termes astronomiques. Et si le caillou était assez gros pour ne pas être totalement détruit par la violence de la traversée de l'atmosphère, donc quand on voit cette étoile filante, eh bien le restant de ce morceau arrive sur Terre et c'est là qu'on le nomme météorite.
D'accord.
Quand on trouve le morceau de caillou. Et c'est ce qui s'est passé le 15 juin 1821 à Juvinas, en Ardèche, juste à côté d'Entraigues, et avec l'association Clapas, Roche, Nature et Paysages. On a beaucoup travaillé sur des documents d'archives et on propose donc une conférence sur la chute de la météorite de Juvinas le 15 juin 1821, qu'ont vu et que qu'ont pu comprendre les témoins, puisque ça s'est passé en pleine journée, à 15h, le 15 juin, qu'ont compris, qu'ont observé les habitants qui en ont été témoins, pourquoi on étudie cette météorite. Et on pourra même voir un fragment de cette météorite sur place. Donc ça se passe le 12 octobre à 20h à Juvinas, espace Vesta, un espace magnifique juste sous la mairie de Juvinas.
Merci.
Et on regardera un petit peu le ciel après la conférence.
Tant qu'à y être.
Vite une petite observation du ciel puisque cette soirée se fait entre autres dans le cadre du jour de la nuit, une action pour lutter contre la pollution lumineuse. Donc
exact.
C'est en même temps la semaine de la fête de la science et le jour du jour de la nuit.
Samedi 12 octobre. Merci Marilyn.
Merci.
C'était Clair d'Étoile, l'émission de l'association Clair d'Étoile et Brun Jardin. On a beaucoup dépassé, mais ce n'est pas grave. C'est le premier mercredi de mois. On se retrouve donc le mois de novembre prochain. Merci.